VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du lundi 20 juin 2016. Au sommaire ce soir...
Échange de tirs nourri au quartier PK5 de Bangui. 6 policiers étaient retenus en otage par des hommes armés ce lundi.
À Bangui, nous parlerons également de la situation des déplacés à l'aéroport Mpoko.
Le site des déplacés de l'aéroport de Bangui-Poko reste aujourd'hui le camp de fortune le plus peuplé de la capitale.
C'est aujourd'hui la journée internationale des réfugiés. Nous y consacrerons un magazine.
Attentat à Kaboul. 3 attaques ont fait au moins 23 morts dans la capitale afghane.
En sport, LeBron James et les Cavaliers de Cleveland ont fait l'histoire hier dans la NBA.
Et comme à chaque édition, plein feu sur l'Euro 2016, juste après le journal.
Échange de tirs nourri au quartier PK5 de Bangui. 6 policiers étaient retenus en otage par des hommes armés ce lundi. On retrouve sur place Freeman Sipila, notre correspondant. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Oui, alors dites-nous un petit peu quels sont les derniers développements sur place.
Pour l'instant, c'est un calme relatif qui règne au PK5 après les tirs à l'arme automatique de cet après-midi. Selon plusieurs sources concordantes, les ravisseurs des 6 policiers auraient tenté une autre attaque contre le commissariat du 3e arrondissement situé à plus de 600 mètres de la base de du quartier général de la MINUSCA. Attaque repoussée par les forces de l'ordre national et la MINUSCA. Une autre source parle de 3 morts dans le camp des assaillants et un soldat de la MINUSCA grièvement blessé. Malgré la baisse de la fréquence des tirs pour l'instant, la tension est toujours vive dans le 3e arrondissement, paralysé depuis ce matin.
Voilà, c'était Freeman Sipila, notre correspondant à Bangui. Merci.
Concernant la RCA, toujours, le parquet de Paris a ouvert la semaine dernière une enquête préliminaire visant des militaires français en Centrafrique. Ils sont soupçonnés d'avoir passé à tabac 2 Centrafricains ou d'avoir laissé faire.
Affaire Jean-Pierre Bemba, la défense de l'ex-vice-président congolais a annoncé son intention de faire appel du verdict de la Cour pénale internationale. La peine doit être prononcée dans quelques heures. Rappelons qu'il a été reconnu coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité entre octobre 2002 et mars 2003 en Centrafrique.
République démocratique du Congo, les autorités déclarent une épidémie de fièvre jaune dans la capitale Kinshasa, ainsi que dans les provinces du Congo central et du Kwango.
La ville de Gao est dans le noir depuis hier. La centrale thermique n'est plus en mesure de fournir de l'électricité suite à un incendie à l'intérieur du réseau. De Gao, la correspondance de Boubacar Touré.
Voilà plus de 24 heures que la ville de Gao n'a plus d'électricité, surtout en cette période de carême où le mercure affiche très souvent 47 degrés. Quelle est la difficulté constatée au niveau de cette centrale ? Daouda Cham, directeur de l'EDM, nous explique.
Les raisons, c'est que depuis hier, il y a eu un accident sur le réseau de distribution, la ligne haute tension. Cela s'est répercuté sur la centrale. Et il y a un transformateur qui a le rôle de protéger les autres installations de la centrale. Ce transformateur s'est éclaté aussi. Du coup, l'incendie qu'on a eu un peu de mal à maîtriser s'est propagé sur les réseaux internes de la centrale. Et donc, du coup, il y a les cellules d'évacuation d'énergie qui est atteinte.
En tout cas, la situation risque d'être plus compliquée pour les musulmans qui observent le carême, car dans les jours à venir, c'est la station de pompage de l'adduction d'eau qui pourrait à son tour cesser de fonctionner par faute d'électricité. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Inondation au Niger, au moins 3 personnes sont mortes à Bazagor, dans le nord du pays, suite à de fortes pluies. Des centaines de boutiques et habitations ont été détruites, des milliers de têtes de bétail ont été décimées. De telles précipitations sont exceptionnelles dans cette zone désertique.
Opération Sophia au large de la Libye. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont approuvé le renforcement de cette mission navale. Elle va désormais pouvoir former des gardes-côtes libyens et lutter contre le trafic d'armes vers ce pays. À l'origine, Sophia visait uniquement à contrer les passeurs de migrants en Méditerranée.
Affaire Oscar Pistorius en Afrique du Sud, la famille de l'ex-athlète a porté plainte suite aux menaces proférées à son encontre. La sentence d'Oscar Pistorius pour le meurtre de sa petite amie Riva Steenkamp doit être prononcée dans moins de 3 semaines.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Journée mondiale des réfugiés, un nouveau record a été franchi en 2015 avec 64,3 millions de personnes déplacées, réfugiées par les conflits et autres fléaux, selon le Haut Commissariat aux réfugiés. On fait le point avec Nathalie Barge.
Dans le monde, on compte 40,8 millions de déplacés, 21,3 millions de réfugiés et 3,2 millions de demandeurs d'asile, pour un total de 65,3 millions de personnes, soit un humain sur 113, a déclaré le haut-commissaire aux réfugiés, Filippo Grandi, venu marquer la journée mondiale des réfugiés en Afghanistan. Les Afghans forment le deuxième groupe de réfugiés dans le monde, derrière les Syriens, qui sont près de 5 millions, un nombre en augmentation de 9,7% par rapport à 2014. Les pays africains accueillent 4,41 millions de réfugiés, une progression de 20%, qui proviennent essentiellement de la Somalie, du Soudan du Sud, de la RDC, du Soudan et de la Centrafrique. Et l'Europe arrive juste derrière, avec 4,39 millions de réfugiés, soit une progression de 43%.
L'Afghanistan, théâtre de plusieurs attaques ce lundi. Au moins 23 personnes, dont 14 employés de sécurité népalais, ont été tués dans 3 attentats quasi simultanés à Kaboul et dans le nord-est du pays. Il s'agit des premiers actes de ce type depuis l'annonce de renforcement de l'engagement américain contre les insurgés.
Nous étions un peu loin quand l'explosion a eu lieu. La rue était jonchée de corps. Nous avons tout de suite emmené les victimes à l'hôpital le plus proche.
À l'hôpital, le fils de Amruddin Khan récupère de ses blessures, mais 14 de ses compagnons, des agents de sécurité qui travaillent à l'ambassade canadienne, n'ont pas eu cette chance. Peu après, une autre bombe a explosé au passage d'un convoi transportant un élu provincial. Une personne est morte et 4 autres ont été blessés. Les talibans ont revendiqué les 2 attaques dans la capitale, les premières de cette ampleur depuis le début du Ramadan, le 6 juin. Mais la branche locale de l'organisation État islamique a aussi revendiqué l'attentat. Une moto piégée a également explosé sur un marché de la petite ville de Keshim, dans la province afghane de Badakhshan, faisant au moins 8 morts. Le président Barack Obama a décidé au début du mois de freiner le retrait des troupes américaines. Un contingent de plus de 9000 hommes doit rester dans le pays jusque tard cette année.
Salwa Jafari.
Le groupe djihadiste État islamique a mené ce lundi une contre-offensive pour desserrer l'étau autour de son fief de Minbej dans le nord de la Syrie. Daesh a repris 2 villages tenus par les FDS, un front arabo-kurde soutenu par les États-Unis. Plus à l'est, les djihadistes offrent aussi une grande résistance à Tabqa, une localité attaquée depuis le début du mois par les forces du régime appuyées par l'aviation russe. Et ces villages avaient été pris aux djihadistes lors d'une large offensive lancée le 31 mai par les FDS.
Au moins une personne a été arrêtée lors de heurts opposant des centaines de migrants aux forces de l'ordre à Calais, dans le nord de la France, près du clan appelé la Jungle. Selon l'AFP, les policiers ont fait usage de grenades lacrymogènes pour tenter d'éloigner les candidats à l'exil qui tentaient de ralentir la circulation pour essayer de s'introduire dans des camions en partance pour la Grande-Bretagne. Il n'y a eu aucun blessé.
Vote crucial ce soir au Congrès américain sur les armes à feu. Les démocrates veulent durcir la loi, mais les républicains contestent cette réforme. Éric Manirakiza.
Le vote est prévu à partir de 21h30, temps universel. Les sénateurs doivent s'exprimer sur 4 propositions de loi. 2 textes démocrates visent d'une part à interdire aux personnes figurant sur les listes de surveillance terroriste d'acheter des armes à feu et d'autre part vérifier les antécédents criminels et psychiatriques des acheteurs d'armes. De leur côté, les républicains souhaitent plutôt une mesure qui retarderait la vente de 72 heures pour les suspects terroristes, le temps qu'un juge approuve l'interdiction. Mais aussi, réformer le système de vérification d'antécédents, une approche que les démocrates devraient rejeter. En l'absence de compromis, on risque d'aller vers l'impasse malgré la volonté affichée des 2 partis pour légiférer après le massacre de 49 personnes à Orlando, le pire de l'histoire des États-Unis.
Le Parlement britannique a rendu un hommage solennel ce lundi à la députée pro-européenne assassinée, Jo Cox. Un drame qui fait perdre du terrain au camp du Brexit en proie à ses premières divisions à 3 jours du référendum sur le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. L'un des chefs de file du camp du Brexit, Nigel Farage, a lui accusé David Cameron et le camp du Remain, le camp du maintien, d'instrumentaliser le meurtre de la députée. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
Bonjour à tous. Après la qualification de la France et de la Suisse hier dans le groupe A, le suspense va être levé à 19h, temps universel dans le groupe B. L'Angleterre n'a besoin que d'un match nul face à la Slovaquie, tandis que la Russie, dernière, doit impérativement battre le Pays de Galles. Les détails tout de suite avec Eric Manirakiza.
Les Anglais, leaders de ce groupe B, sont en confiance à Saint-Étienne, où ils affrontent la Slovaquie. En cas de victoire, les hommes de Roy Hodgson sont assurés d'être premiers. Un match nul suffit à l'Angleterre pour se qualifier, mais pour terminer en tête, il faut que, dans le même temps, le Pays de Galles ne gagne pas. Et les coéquipiers de Marek Hamšík ont leur destin en main. Avec une victoire, les Slovaques seront qualifiés pour les huitièmes de finale d'un championnat d'Europe pour la première fois de leur histoire. Dans le deuxième match, le Pays de Galles joue sa place pour le prochain tour contre une équipe de Russie dos au mur. Les Dragons sont à égalité avec les Slovaques dans la lutte pour la deuxième place et doivent faire mieux qu'eux pour composter leur ticket pour les huitièmes de finale. Quant à la Russie, dernière du groupe, rien n'est encore perdu, mais la tâche semble tout de même quasiment impossible avec un seul petit point. À noter que la rencontre entre la Russie et le Pays de Galles à Toulouse rejoint la liste des matchs classés à risque.
Hier, je vous le disais, la France et la Suisse ont fait match nul 0-0 à Lille grâce à un Paul Pogba étincelant. L'Albanie termine troisième du groupe A avec 3 points après sa victoire 1-0 face à la Roumanie. C'est la première dans une compétition internationale pour les Albanais. Insuffisant néanmoins pour espérer se qualifier au titre de meilleur troisième. Et à suivre demain, l'Allemagne parmi les nations favorites pour la victoire finale de cet Euro 2016. Mais la Nationalmannschaft est loin d'être aussi dominatrice que lors de la Coupe du Monde 2014 qu'elle avait remportée. Les joueurs de Joachim Löw tardent à convaincre et après un match nul sans but contre la Pologne, ils doivent s'imposer face à l'Irlande du Nord pour s'assurer la première place de leur groupe. Présentation de la rencontre avec notre correspondant en France, Christian Mpanzu.
Toujours très serein en conférence de presse, Joachim Löw reste conscient que son équipe n'a pas encore montré son meilleur visage. Plusieurs secteurs de jeu posent question. Si Neuer est intouchable, la défense devant lui a montré de nombreuses lacunes lors des 2 premières rencontres. Certes, Mats Hummels a fait son retour, mais son duo avec Jérôme Boateng, d'habitude très solide, a été largement sollicité par les attaquants polonais qui n'ont eu aucune difficulté à se procurer des occasions. Le milieu de terrain donne beaucoup plus de satisfaction avec Mesut Özil en meneur de jeu. Le gros point d'interrogation, c'est l'attaque. Le trio Müller, Draxler, Götze n'a pas encore trouvé le chemin des filets. Ce sera peut-être le cas contre l'Irlande du Nord au Parc des Princes de Paris. Le dernier match de groupe des Allemands, de quoi se rôder avant les huitièmes de finale. Depuis Paris, Christian Mpanzu pour VOA Afrique.
Toujours dans ce groupe C, mardi, l'Ukraine jouera contre la Pologne. Et puis le groupe D avec Turquie, République tchèque et surtout Espagne, déjà qualifiée face à la Croatie. Jules Valentin Gouy revient sur la rencontre entre le tenant du titre espagnol et la Croatie. C'est le coup de sifflet de Jules Valentin Gouy.
Bonsoir. L'épilogue ce lundi dans la poule la plus sulfureuse du tournoi, la poule B, ne doit pas ausculter l'alléchant Espagne-Croatie qui attend les amateurs du beau jeu ce mardi dans la poule D. Si l'Espagne est depuis 2 décennies le creuset du football spectacle en Europe, la Croatie, digne héritière de la spectaculaire formation de Yougoslavie, en est le pendant dans la partie Est du continent. À ce titre, l'Espagne viendra au complet et en toute sérénité, elle sera au rendez-vous. Mais pour la Croatie, c'est l'équation à double inconnu. Tout d'abord, la belle mécanique croate a perdu par blessure sa pièce maîtresse, Luka Modric. Il vaudra mieux être au repos. Ensuite, la réaction contre-productive de ses supporters en fin de rencontre contre la République tchèque laisse interrogatif quant à l'état d'esprit du groupe 4 jours après. Alors, aura-t-on le même Espagne-Croatie espéré? La réponse est entre les pieds des joueurs croates qui doivent confirmer, à l'exemple du Brésil des belles années, que les grandes équipes de football sont celles qui ont toujours des solutions de rechange. À demain.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
Au Nigeria, la Banque centrale a revu sa copie pour autoriser un taux de change purement dicté par le marché. Conséquence, la monnaie locale, le Naira, a perdu aujourd'hui 30% de sa valeur par rapport au dollar. De nombreux experts ont salué la mesure, une opportunité pour assurer et attirer des investissements étrangers, ont-ils estimé. Le Naira devrait se stabiliser à 250 pour un dollar contre 350 au marché noir. Un nouveau PDG à la tête de MTN au Nigeria à partir de l'année prochaine. Rob Schutte, un Sud-Africain qui dirige actuellement Vodafone Europe. Ce changement intervient après la restructuration de la gouvernance de ce géant des télécommunications et dans le contentieux avec le gouvernement nigérien, MTN devra payer une amende de 1,7 milliard de dollars pour violation d'une injonction de l'autorité des communications. À J-3 du référendum pour le maintien ou la sortie de la zone euro, les marchés actions ont enregistré de solides gains ce matin au Royaume-Uni. La livre sterling a repris également nettement face à l'euro et au dollar. L'optimisme des investisseurs est dicté par la tendance favorable au maintien dans l'Union européenne.
Ravi d'être à votre compagnie, Morgane Guériec et Gaby Dorsil. Place au dossier du jour. Première escale ce soir, le Mali.
L'accord de paix d'Alger, un an après sa signature, connaît un début d'application avec notamment le texte sur les nouvelles autorités dans les nouvelles régions du Nord. Quelles seront les prochaines étapes ? Jacques Aristide a posé la question au Premier ministre malien en mission fin de semaine dernière aux Nations Unies à New York. Modibo Keïta.
Une fois qu'on aura mis en place les autorités intérimaires, c'est au niveau des collectivités cela. Il faut faire la part des choses. Il y a les autorités administratives et les autorités des collectivités. Les autorités intérimaires, c'est les autorités des collectivités. Le conseil municipal, le conseil régional, le conseil de cercle. Une fois qu'on aura mis ces autorités en place, et la date a été fixée de commun accord, il s'agira maintenant de préparer les prochaines élections prévues pour septembre. Ensuite, il faut préparer le retour des services sociaux de base dans ces régions. Il faut préparer le retour de l'administration dans ces régions. Il faut préparer le retour et le déploiement de l'armée malienne sur l'étendue du territoire du Mali. Voilà les grandes étapes.
Peut-on avoir la paix au Mali sans Iyad Agali?
Je ne réponds pas à cette question.
Pourquoi?
Je réponds à la communauté internationale d'assumer ses responsabilités. Le Mali assumera les siennes.
Alors, des voix, justement, comme celle de l'Amenokal, pour dire que les Américains ont discuté avec les talibans par le passé, demandent des discussions avec Iyad Agali. Est-ce que le gouvernement a entendu ces appels et que faire, donc, avec cet homme?
Ce que l'Amenokal a dit n'engage que lui. Et nous ne pouvons pas nous associer à tous ceux qui soutiennent le terrorisme. Voilà la vérité.
Vous êtes catégorique.
Mais absolument. Comment décider de lutter contre le terrorisme? Notre accord a dit, tous ceux qui se démarqueront du terrorisme pourront avoir des entrées et des sorties avec le gouvernement du Mali. Et les mouvements ont été invités à se démarquer du terrorisme. C'est clair dans notre esprit.
C'est clair comme l'eau de roche, il n'y aura jamais
de
négociation avec...
Je ne sais pas si c'est l'eau de roche, ça peut être l'eau des dunes.
Le Premier ministre malien, Modibo Keïta.
La situation humanitaire est encore préoccupante sur le site des déplacés de l'aéroport de Bangui. Aujourd'hui, Médecins sans frontières réduit les critères d'admission dans son seul grand centre de traitement médical sur le site. Certains déplacés se disent abandonnés à leur triste sort. Reportage de Freeman Sipila.
Le site des déplacés de l'aéroport de Bangui Poco reste aujourd'hui le camp de fortune le plus peuplé de la capitale. Malgré le retour à l'ordre constitutionnel dans le pays, plus de 20 000 déplacés y vivent encore. La situation humanitaire se dégrade de plus en plus avec la saison pluvieuse Évariste vit avec sa famille sur le site.
C'est un peu difficile pour nous les déplacer, quoi, parce qu'il y a des autres gens qui ont encore des problèmes de santé. En cas d'intervention rapide, les gens ont des problèmes. Maintenant même, dans la saison pluvieuse, il y a comme des palus, il y a beaucoup de sortes de maladies qui menacent.
Ici, sur le site, MSF est la seule ONG qui s'occupe pour la plupart des cas de la prise en charge sanitaire des déplacés. Dernièrement, l'organisation humanitaire a décidé de réduire la capacité de son service en se focalisant sur des cas jugés importants. Les enfants de 0 à 15 ans sont prioritaires dans les cas graves, notamment le paludisme et les interventions d'urgence. Ces déplacés pensent que les adultes sont abandonnés à leur triste sort. Ils appellent MSF à revoir sa méthode.
Les cas de vieux là, c'est trop fort, c'est très dur mon frère. Il faut passer d'autre part l'hôpital combattant Bédé ou bien 5 kilos Mamadou Mbaïki ou bien Kolpangaba là. Surtout le problème de situation de l'argent là, c'est trop dur. La méthode là, c'est pas bien.
Nous voulons que l'hôpital reste ici et puis tout le monde doit soigner ici, passer l'hôpital pour peuple centrafricain.
Au MSF, les responsables précisent que les adultes ne sont pas mis de côté. Ils sont orientés dans les autres centres de santé existants et opérationnels. Docteur Emmanuel Lampaert, chef de mission MSF Belgique.
Nous avons de plus en plus des cas de paludisme qui sont souvent des cas d'urgence. Afin de pouvoir se concentrer sur toutes ces urgences et avec des moyens qui sont à un moment aussi limités. Nous avons voulu mettre un plafond en termes de volume de consultations par jour. C'est ainsi que tous les cas, moins 15 ans, femmes enceintes, bien évidemment, seront à tout moment consultées. Pour les adultes non touchés par le paludisme, nous allons différer dans le temps. Et également, l'orientation et l'information donnée sur l'existence des centres de santé existants.
La situation alarmante dans laquelle vivent ces personnes affectées par la crise préoccupe aussi bien les humanitaires que les nouvelles autorités. Dimanche, le maire de Bangui, Émile Gloré Monakombo, s'est rendu à leur chevet.
Il n'est jamais gai de voir des familles souffrir, souffrir au point de mourir. Ils ont fui la mort et ils viennent ici dans des conditions difficiles.
Freeman Sipila, Bangui.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
C'est aujourd'hui la Journée internationale des réfugiés. Un nouveau record a été franchi en 2015 avec 65,3 millions de personnes déplacées et réfugiées par des conflits et autres fléaux, selon le Haut Commissariat aux réfugiés. Nicolas Pineau a interrogé William Spindler, porte-parole du Haut Commissariat aux réfugiés à Genève.
La situation est la plus préoccupante depuis la Deuxième Guerre mondiale. En 2014, il y avait 59 millions de personnes déplacées dans le monde. À la fin de 2015, il y avait 65 millions, c'est-à-dire une augmentation de 10% et la plus importante depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que le nombre de personnes déplacées et la souffrance des personnes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes comme vous et comme moi qui souffrent, qui demandent l'action immédiate de la part des États.
La Syrie reste le principal point de préoccupation ?
Tout à fait. C'est la Syrie, la cause principale de l'augmentation des réfugiés en 2015, avec autour de 5 millions de personnes réfugiées et 6,5 millions de personnes déplacées à l'intérieur de la Syrie. En Europe, on a l'impression de que c'est les arrivées des réfugiés en Europe qui sont la raison pour laquelle la crise des réfugiés augmente. En fait, 90% des réfugiés dans le monde ne sont pas en Europe, ils sont dans des pays en développement. Et dans toutes les régions du monde, l'Europe, c'est la dernière en nombre de personnes déplacées et de réfugiés. Mais oui, la Syrie continue à produire des réfugiés, mais il faut ajouter aussi des autres situations en Moyen-Orient, notamment le Yémen. Il y a la situation en Irak, qui reste aussi très préoccupante en Moyen-Orient. Le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, c'est la région principale des déplacements dans le monde, suivie par l'Afrique subsaharienne.
Quels sont les pays qui vous préoccupent, les régions qui vous préoccupent en Afrique ?
En Afrique, on a une quantité de conflits qui vont du Nigeria continuant à travers la République démocratique du Congo, le Soudan, le Sud-Soudan, la Somalie, maintenant la situation en Burundi et en tout nouveau conflit au Mozambique. Toute cette situation a produit un nombre très important de réfugiés en 2015. L'Afrique subsaharienne reste le deuxième continent ou région à niveau mondial qui produit des réfugiés.
William Splinder, porte-parole du Haut-Commissariat aux réfugiés à Genève.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse, voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Les délestages incessants plongent les habitants de Libreville dans le noir, parfois plusieurs heures par jour. Une crise énergétique qui pousse de nombreux foyers à recourir à des lampes solaires pour s'éclairer. Ce nouveau marché est en plein essor, plusieurs foyers ayant de plus en plus recours à ce système bon marché. Reportage à Libreville de Jean-Rovis Dabani.
À Libreville, la capitale gabonaise, les coupures d'électricité sont intempestives. Pour éclairer son restaurant, Dorine, une restauratrice, n'a pas de choix. Elle a besoin de lumière. Pour y remédier, la jeune femme a investi dans des lampes solaires.
Alors depuis que je l'ai, déjà, pour le rapport qualité-prix, c'est formidable. Alors, j'ai ma facture de courant que je recevais est passée de moins 50%.
La fréquence des délestages électriques au Gabon, le déficit d'énergie provoque plusieurs coupures par jour. Dans les rues comme dans les boutiques, des lampes solaires sont devenues omniprésentes et se vendent entre 6 000 et 15 000 francs CFA. Serge Azzi, revendeur.
Sur le marché, on ne voit pas un produit comme ça en tant que tel. Et c'était très intéressant pour nous d'avoir quelque chose qu'on ne trouve pas très facilement partout.
Un marché qui est en plein essor. Dominique Ball, une jeune ingénieure de 31 ans, a fondé Gap by Light, une unité d'assemblage gabonaise qui s'est ouverte il y a un an en important des matériaux de France et de Chine. L'entreprise produit déjà une centaine de lampes par jour avec un seul credo, des lampes pour toutes les bourses, mais pas seulement.
Aujourd'hui, j'ai la volonté de porter ce projet très haut et de pouvoir fournir à ces populations à moindre coût des dispositifs portatifs.
Gaba Light a l'ambition pharaonique d'électrifier les bidonvilles et les bourgades du pays. Le défi énergétique est de taille au Gabon. Le gouvernement vient de construire un barrage hydroélectrique de 160 MW au sud-est du pays. En attendant, l'énergie solaire reste une lueur dans les nuits gabonaises. Même d'autres villes du pays s'y sont mises. À Libreville, Jean-Rovis Dabani, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Muntu sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme Top 10 American Music, l'actualité de la musique pop américaine. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-31-40, vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-37-31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Abolingo, Wasso. Mawasa wa ho na ho Andolo wa soy
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Joselle Morissin. Présentation, Morgane Diayek et Chérubin Kaby Dorsil.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Partagez vos impressions, vos photos, posez des questions. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.